Voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Quand les jeux vidéo deviennent un sport, un vrai, avec ses stades, ses supporters, ses clubs, nous parlons aujourd'hui de l'e-sport, les voisins, ou le sport électronique qui fait fureur en Corée du Sud et dans le reste de l'Asie, aux États-Unis et depuis peu en Europe. Un monde parallèle qui fait chaque jour un pas de plus dans notre réalité. Ces compétitions de jeux vidéo seraient le sport de la nouvelle génération, sport sédentaire, en équipe ou seul contre tous, le sport version écran géant et internet haut débit. À chaque compétition, ces joueurs concentrés en rang face au public, penchés sur leur clavier ou leur manette. Alors l'e-sport inquiète quand d'autres y voient un nouveau marché économique. Quel avenir pour ces jeux vidéo en compétition? Et comment expliquer ce qui devient un vrai phénomène de société? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Julien Brochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ESWC, l'Electronic Sports World Convention, qui organise des compétitions de jeux vidéo depuis près de 13 ans, depuis les tout débuts en fait, de cette discipline en France. Bonjour Philippe Guignier.
Bonjour.
Vous êtes passionné de voile, que vous avez pratiqué longtemps en professionnel, et depuis vous avez créé un jeu vidéo Virtual Regatta qui en fait propose à chacun de réaliser son Vendée Globe, son tour du monde à la voile, évidemment en virtuel. Et Sacha Brodowski, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé une agence pour joueurs professionnels de jeux vidéo, Bang Bang Management. Dina Morisset, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît plutôt sous votre pseudo, donc Dina, un pseudo de joueuse, de gameuse comme on dit. Et votre jeu à vous, c'est Just Dance, un jeu de danse. Vous en êtes d'ailleurs actuellement vice-championne du monde. Un jeu dans lequel il faut reproduire en vrai et en rythme les chorégraphies des danseurs qu'on voit à l'écran. C'est ça, je me trompe
pas? Exactement.
Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Les compétitions de jeux vidéo peuvent-elles être considérées comme un sport, un vrai? Comment expliquer cet engouement, cette fascination pour les jeux vidéo? Pourquoi ces jeux de stratégie, de combat ou de danse font-ils autant rêver? On attend vos appels, vos points de vue, vos questions pour nos invités au 33 1 84 22 71 71 et puis évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et vous réagissez déjà sur Facebook, les voisins. Certains d'entre vous s'interrogent, comme Amoros, qui nous écrit d'Abidjan. Je ne sais même pas ce que c'est, l'e-sport. Alors, on va revenir là-dessus pour que vous compreniez. Amoros, Jean est lui à Libreville. Il nous dit, au Gabon, on n'a pas vraiment la culture des compétitions en ligne. Ce n'est pas qu'on n'aime pas ça, mais c'est plutôt par manque de moyens matériels. Un manque d'ordinateurs, de connexion Wi-Fi et de moyens financiers. Rares sont ceux qui peuvent se permettre de jouer en ligne, même au cybercafé. Mais moi, j'aime bien les jeux vidéo. J'ai grandi avec la Super Nintendo, la PlayStation et la Xbox. Théodore, lui, est à N'Djamena, au Tchad. Il nous écrit « Les jeux vidéo, c'est un très bon hobby. Je suis un grand passionné de PlayStation. »
Ça peut aller très vite.
On voit ce qui se passe. Ils se font complètement dominer.
Oh
attention.
Non, il va pas pouvoir s'en aller.
Excellent gang de la part de Kirado.
Oh,
il juke absolument tous les
spells. Exceptionnel.
L'aller-retour, la spire qui touche. Mais il se self ultime pour remonter ses points de vie.
Voilà, parfait.
Oh,
c'était close.
Tellement close. Il a presque tout juke, mais il a pris le stun en max range.
Il lui fallu que Joko prenne la lance pour lui, je pense. Parce que là, perdre l'ulti sur ça, c'est un peu dommage.
Oh, ils veulent faire et le catch. Ils veulent faire le catch. Et après, Tiki est présent avec sa Lissandra.
Oh,
le très bon stun de Kirdos. Il va se venger sur le barn. Est-ce qu'il aura le temps? Non, il n'aura pas le temps de lock. Très bon tunnel. Kirdos qui nous fait un superbe travail une nouvelle fois.
Très grosse game. Oh là là, le killing sur Nero.
Oh, la cache, il fait beaucoup trop de dégâts. Il arrive à s'escape avec un jump. On n'arrivera pas.
Mais il est live. Est-ce qu'ils vont pouvoir défendre cette toile? Et regarde Harry botlane. Harry qui est en train déjà de taper la T2. Très intelligent ce qu'ils font là. Ouais, ils ont déséquilibré leur map control. Du coup, ils vont perdre sur ça. Ils ont perdu des HP sur la T2 bot, sur la T1 mid. Et du coup, bah, ils font envoyer quelqu'un top. Mais comme ils venaient de back et que tout le monde s'était rotate mid bot, bah, la tour top est très low. Et c'est vraiment assez dommage.
La tour top est très low. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Julien Brochet?
Alors, la tour top est très low, ça veut dire qu'on est sur un jeu stratégie où il faut prendre position sur ce qu'on appelle la map, la carte de jeu, et il y a des tours qui sont espacées, et plus on peut avancer et détruire des tours, mieux on se porte en général. Donc c'est des termes stratégiques qui donnent une avancée sur la partie.
Des termes un peu compliqués. On voit qu'e-sport, c'est un univers avec ses codes, son langage. On peut facilement s'y perdre quand on n'y connaît rien. Alors je vais vous poser une question qui va peut-être vous énerver, tous autant que vous êtes. L'e-sport, donc ce sport électronique, est-ce que c'est vraiment un sport ?
Ha !
Alors, Sacha Brodowski.
Alors, dans le cas de Dina, en l'occurrence, je pourrais dire oui, puisque c'est une vraie activité physique. Hein. Il s'agit de danser, de reproduire des chorégraphies. Et je peux vous dire que quand vous faites ça dans une compétition sur 15, 20 chansons dans une journée, il vaut mieux être en forme. Après, de façon générale, je ne suis pas persuadé que ce soit un sport tel qu'on l'entend. Après, il y a toujours une définition. Est-ce que les échecs...
Les échecs sont reconnus comme un sport en
voilà,
France.
Voilà, donc à ce moment-là, on pourrait dire aussi que l'e-sport est un sport. Après, c'est pas, très sincèrement, ce n'est pas une question qu'on se pose, nous. Ce n'est pas une question que se posent, par exemple, mes joueurs. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui regardent. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir comme eux. Je crois que c'est ça le plus important. Ce qui est sûr, c'est que c'est une compétition et qu'on y retrouve en cela, en termes mental, les codes du sport, puisqu'il y a une vraie préparation mentale. Il y a une demande d'entraînement, de rigueur, de préparation aujourd'hui aussi physique, parce qu'il y a des blessures dans l'e-sport. Donc, on s'en approche, mais ce n'est pas forcément du sport. En tout cas, ce n'est pas une question que se posent mes joueurs.
On parle quand même de gens qui sont assis effectivement derrière un écran, derrière leur clavier. Julien Brochet, vous parlez aussi de sport, d'e-sport ?
Non, justement, on parle d'e-sport. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne s'est pas appelé du sport. Si ça avait été du sport, on l'aurait appelé du sport, tout simplement. Et comme le disait Sacha, en fait, ce n'est pas important. En fait, c'est vrai que ce débat, il prend beaucoup de place, souvent au niveau des médias. Est-ce que c'est un sport ? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est un phénomène et est-ce que c'est un phénomène qui va perdurer ? Et là, autour de cette table, je pense qu'on est tous convaincus que oui. Et je pense que ça va encore être plus un phénomène encore plus grand avec les nouvelles générations qui arrivent, qui sont beaucoup plus digitalisées que même les nôtres actuellement. Et donc voilà, donc on y croit tous et c'est que le début encore de ce phénomène. Même si ça existe depuis 15 ans, que ça grossit, que chaque année il y a des audiences qui explosent, on n'est pas sur quelque chose qui va s'arrêter dans 5 ans parce que c'est un effet de mode. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la société et dans les générations.
On est sur les débuts en France en tout cas, mais dans d'autres pays, en Corée du Sud par exemple, c'est un vrai phénomène déjà depuis au moins une dizaine d'années.
Oui, en Corée du Sud, ça a commencé en effet à peu près 10 ans en avance parce que là-bas, il y avait une culture du cybercafé. Lorsque les étudiants ou les travailleurs finissaient de travailler, ils allaient dans le cybercafé et assez naturellement, se sont mis à jouer et assez, donc il y a des top joueurs qui se sont ressortis du lot et donc il y a carrément eu des émissions de télé, des stars qui se faisaient arrêter dans la rue il y a 15 ans, il y a un grand champion de StarCraft qui s'appelait Elki qui était français, qui était totalement inconnu en France et lorsqu'il est arrivé là-bas, déjà dans le métro, on l'a arrêté pour signer des autographes. Donc en effet, c'était très en avance, mais même pour la Corée, on est sur le début de l'histoire parce que je pense que c'est quelque chose qui va durer encore de très très longues années.
StarCraft qui est un des jeux les plus joués dans le monde. On a des questions d'auditeurs qui nous parviennent sur Facebook, notamment celle de Charles à Gisagara au Burundi. Il demande comment est-il possible de pratiquer l'e-sport avec un ordinateur seulement ou est-ce qu'on peut aussi jouer sur son téléphone ? Alors, qu'on peut jouer, Dina Morrissey ?
Dans le cas de Just Dance, on peut jouer à la fois soit sur son ordinateur avec son téléphone justement dans la main ou sur sa console de jeu, soit avec une caméra, soit avec une manette, soit avec son téléphone selon le support. Et du coup, en tout cas, dans le cadre de Just Dance, on trouve toujours un moyen de jouer si on a envie, ça c'est sûr. Après, ça dépend effectivement les jeux, et je ne suis pas spécialiste de tous les jeux.
Mais en tout cas, pour certains, on peut jouer sur son téléphone.
Bien sûr.
Alors vous êtes lancé dans la compétition pour donc, ce jeu vidéo Just Dance il y a 2 ans. Comment vous êtes tombée là-dedans ? Qu'est-ce qui vous a attiré ?
Je suis tombée dedans, justement. j'ai vraiment commencé par pur hasard, par un post sur Facebook que j'ai vu qui annonçait la première compétition de Just Dance ESWC. Et je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Pourquoi pas ? Après tout, je n'avais strictement rien à perdre.
Vous aimiez danser, j'imagine ?
J'aimais danser, j'aimais le jeu vidéo. Et du coup, Just Dance, c'est un jeu que j'appréciais, que je ne jouais pas tous les jours, mais que j'appréciais beaucoup. Et sur laquelle j'étais plutôt pas mauvaise, en tout cas au niveau de mes amis et de ma famille. Ce qui, certes, ne représente pas grand-chose, je vous l'accorde, mais bon. Du coup, j'ai tenté et c'est vrai que ça a plutôt très bien marché pour moi. Et ça a créé une étincelle que j'ai voulu conserver par la suite.
Et vous continuez donc en compétition. Philippe Guigny, alors vous, vous ne jouez pas. Vous êtes d'ailleurs, je crois, longtemps resté loin de ce monde-là des jeux vidéo, puisque vous avez été auparavant régatier professionnel, c'est ça, passionné
oui,
de voile.
Je continue, hein, je continue. Vous continuez. Mais la grosse différence, c'est que je ne suis plus payé maintenant. Voire même, c'est moi qui suis obligé de payer mes voiles, c'est l'enfer.
Et vous avez donc eu l'idée de créer un jeu vidéo autour de cette passion, et notamment autour du Vendée Globe, qui est donc une compétition qui se tient en ce moment, d'ailleurs. Comment vous est venue cette idée et en quoi ça consiste, ce jeu?
Alors, nous, c'est un peu spécial parce que finalement, chez Virtual Regatta, c'est un jeu de simulation. Enfin, on a plusieurs jeux, mais le jeu du Vendée Globe, là, en ce moment, c'est un jeu de simulation. Le principe, c'est de dire, toi aussi, fais le Vendée Globe. Donc, tu prends un bateau, c'est le même bateau qu'au Vendée Globe, c'est la même carte du monde et c'est le même parcours. Et on injecte la vraie météo du monde réel dedans et on doit diriger son bateau et faire le meilleur parcours possible et essayer d'arriver bien classé. Là, il y a 430 000 personnes inscrites en ce moment et on s'inscrit toujours. On va terminer à plus de 600 000, je pense.
Joueurs donc qui jouent sur votre jeu.
Et qui sont en train de faire le Vendée Globe, qui sont en mer actuellement, derrière leur écran de smartphone ou tablette ou ordinateur. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fait du e-sport sans le savoir depuis qu'on a créé ce jeu. Parce que Virtual Regatta, c'est un jeu hyper compétitif, puisque c'est un jeu qui est basé sur le classement. Du premier au dernier.
À l'image du vrai Vendée Globe, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on tend à se demander là, un peu ce qu'est le e-sport et tout. C'est effectivement c'est de la compétition à travers du jeu vidéo. C'est tout. Et ce n'est pas la peine d'aller poser davantage de questions. Il y a effectivement on parlait du fait que c'était sportif ou pas, au sens dépenses énergétiques. Il y en a qui le sont. Ce que tu fais, c'est sportif, hein. C'est
Just
clairement
dance.
Sportif. Ah oui, faut franchement. Mmh. Enfin, et puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Ou tout au moins, il faut être extrêmement rapide et tout. C'est une autre dextérité, mais c'est pas la même, quoi. Et effectivement, le marathon est un sport et les échecs aussi. Donc c'est pareil dans le vrai sport. Hein. J'ai envie de dire, c'est assez large la fourchette.
Oui, bon, le marathon, effectivement, on comprend que ce soit un sport. Les échecs, c'est un peu plus surprenant. Mais du coup, effectivement,
c'est pour ça
en est.
C'est pareil dans le jeu vidéo. Ce qui se passe aujourd'hui, les compétitions ont lieu sur différents supports qui parfois sont physiques, d'autres ne le sont pas.
À vous de réagir, les voisins, les voisines. On attend vos appels.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Nous avons un auditeur au téléphone, Tierno, à Conakry. Bonjour Tierno. Ah, la ligne...
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, très bien, bienvenue. Alors vous avez participé, il me semble, à une compétition d'e-sport à Conakry, c'est ça? Racontez-nous.
J'ai participé à une compétition à Conakry qui s'est tenue dans une commune qu'on appelait la commune de Ratoma. Mm-hmm. On a compéti, on était au nombre de 16. Là, la compétition n'était pas facile, mais par l'effort, j'ai remporté la compétition.
Ah, vous avez gagné, on a un gagnant parmi nous. C'est quel jeu sur lequel vous jouez?
C'était FIFA 15 qu'on jouait là.
Donc un jeu de football?
Ah, oui, un jeu de football que tout le monde adore beaucoup.
Et après cette victoire, alors, est-ce que vous voulez persévérer, continuer à participer à ce type de compétition?
Oui, je vais persévérer, oui, même former beaucoup de gens, participer à des compétitions internationales, beaucoup même.
Vous aimeriez participer à des compétitions internationales?
Oui, il y a la possibilité, même si là où je peux avoir comment participer, je pourrais participer à des compétitions internationales.
Et il y a souvent des compétitions d'e-sport qui sont organisées dans votre ville, à Conakry?
Oui, au moment des vacances, c'est organisé. Parce que nous, c'est les vacances qu'on organise les compétitions de jeux vidéo. Mais là, on paye l'argent pour les gains qu'on dépouche. Après, tout le monde paye l'argent. C'est en tout, c'est la valeur de 150.
Il faut payer pour participer?
Oui, on paye pour participer aux compétitions.
150 francs CFA.
Oui. Là, en tout, on dépose l'argent après. Là, on vous programme pour la compétition. Vous commencez le jeu. La compétition dure une semaine.
Très Très bien, bah merci, merci beaucoup Tierno pour votre témoignage depuis Conakry. Sacha Brodowski, vous voulez réagir à ce témoignage ?
Non, bah ce qui est génial, c'est que c'est vrai que FIFA est un jeu qui est joué, c'est du foot, hein, donc c'est aussi le jeu qui est le plus accessible, on va dire, pour les médias en termes d'e-sport. C'est joué partout dans le monde et on le voit chaque année à l'ESWC, il y a des pays africains qui sont représentés. Je ne sais pas si on a déjà eu la Guinée. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça vient de partout dans le monde. Et ce qui est génial aussi avec l'e-sport, c'est que tout le monde est connecté puisque ça se joue sur, sur Internet. Et cette année, en ce qui concerne FIFA, ça peut intéresser tous ceux qui nous écoutent. C'est que la FIFA organise vraiment un événement mondial avec des qualifications partout dans le monde aujourd'hui pour la Coupe du Monde qui aura lieu donc à l'été normalement prochain vers là en 2017 et c'est vrai que ça va être quelque chose de génial parce que tous les pays du monde vont être représentés.
Alors il y a un autre jeu hein, qui est quand même bien connu, League of Legends, un jeu de stratégie dans lequel on est par équipe, si je ne me trompe pas, on a deux équipes qui s'affrontent, il faut détruire le bâtiment de l'équipe adverse et je vous propose d'écouter un extrait d'une de ces compétitions commenté de League of Legends.
Tyrus is going to get dropped as well. No, he's avoided the damage. Captain Jack turns around, puts the shot down. Helios is going to land. They can get a second Oracle Red here of the Odd One. The Odd One goes back in. Reginald's back. Expecial goes in. On towards Captain Jack. The double kill, the triple kill. Oh my god. I don't think I've got enough oxygen left in my body to continue that fight. But what a crazy back and forth action.
Je ne sais pas s'il me reste assez d'oxygène pour continuer à suivre ce combat, hein, c'est ce que dit le commentateur. Donc l'e-sport a aussi ses commentateurs hystériques avec l'anglais comme langue officielle. Donc League of Legends, c'est le jeu le plus joué, le plus regardé au monde. Julien Brochet, vous qui organisez des compétitions d'e-sport, j'imagine que vous êtes amateur de ce spectacle en tant que tel. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans et quel intérêt on peut trouver effectivement à regarder des gens jouer ?
Alors déjà, il faut savoir que je pense que c'est un peu le cas de tout le monde sur la table. On est tous des joueurs déjà à la base. Moi, avant d'organiser des événements, je jouais moi-même pas à League of Legends, mais à d'autres jeux. Et c'est vrai que déjà à l'époque, il n'y avait pas de streaming. C'était pas évident de suivre des compétitions, mais on arrivait à retrouver des parties des meilleurs joueurs et à les regarder. Et les premières fois que j'ai regardé des parties, c'était en fait pour m'améliorer. Et je pense que c'est souvent comme ça que les gens commencent à regarder du e-sport, c'est qu'en fait, ils vont regarder les parties des meilleurs joueurs pour essayer de faire comme eux, pour s'améliorer, pour devenir eux-mêmes meilleurs. Et ensuite, bah, on s'attache, on commence à suivre des joueurs ou des commentateurs stars, à suivre leurs résultats. Et bah, y a une véritable passion, même un phénomène de supporters qui peut se développer aussi dans le e-sport.
Et on a les mêmes émotions que celles qu'on peut avoir en regardant un match de foot ?
Alors oui, bah ça, il suffit de se déplacer sur des événements pour le constater. Aujourd'hui, en effet, il y a les plus grandes compétitions qui arrivent à remplir des stades et avec des gens qui se lèvent et qui vont hurler au moment où des points vont être marqués dans le jeu. Il y a même des chants de supporters qui commencent à se mettre en place. Au dernier ESWC, on a vu des holas se faire dans le public. Lorsque Dax a gagné le tout nouveau joueur du PSG, il a fait scander au public « Ici, c'est Paris », comme ça se fait dans les stades de foot. Donc, voilà, oui, il y a un vrai phénomène de passion qui émerge naturellement des communautés.
Dina Morrissé, vous qui jouez, est-ce que vous avez le sentiment de devoir assurer aussi le spectacle ? Est-ce que vous avez des fans derrière vous ?
Bien sûr, c'est ça aussi qui nous pousse quand on est sur scène, c'est qu'on a un public pour lequel il faut faire le show et qui réagit à chaque action. Donc quand par exemple, nous on fait des duels et que la couronne va de l'un à l'autre, c'est ce qui m'est arrivé là au dernier ESWC. En fait, la couronne changeait tout du long et le public réagit. Et bon, malheureusement, dans mon cas, en finale, sur la dernière chanson, elle a changé à la dernière seconde pour aller chez mon adversaire. Et je pense que tous ceux qui étaient dans la salle ce jour-là vont s'en rappeler très longtemps parce que ça vous donne des émotions et que vous voulez défendre votre champion, qu'il y a des rebondissements. Et puis, les fans ont envie de vibrer. Donc, ils sont là dans la salle pour ça.
Et la couronne, en fait, c'est le titre.
C'est celui qui est en tête sur la chanson. Il a la couronne.
Voilà. Sur la partie.
Ce que dit Padina, par contre, pardon, mais c'est que sur Jaden, ça va encore plus loin. C'est que les fans, pour supporter les danseurs, dansent en même temps qu'eux dans le public. public.
Ah oui.
Et donc ça crée des images
sur scène. Voilà. Dina Morisset, Julien Brochet, Philippe Guigné, Sacha Brodowski, vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le flash. On parlera avec notre correspondant sur place de la Corée du Sud où ces compétitions de jeux vidéo font partie intégrante de la culture. On parlera aussi du statut des joueurs professionnels et d'une reconversion qui peut être difficile. Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur les réseaux sociaux.
L'épreuve. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Les jeux vidéo ont conquis la planète. Vous-même, les voisins, les voisines, vous y jouez peut-être sur votre ordinateur, sur votre console. Longtemps cantonnés aux chambres à coucher et aux cybercafés, les jeux vidéo sont en train de devenir un vrai sport qui font leur entrée dans le monde réel. D'ailleurs, les joueurs professionnels, les e-sportifs comme on les appelle, sont très convoités par des marques, des sponsors qui accourent et y voient une façon de toucher les jeunes, hein, les jeunes qui suivent par millions ces compétitions de jeux vidéo sur Internet. On en parle avec Sacha Brodowski, fondateur d'une agence pour joueurs professionnels de jeux vidéo, Julien Brochet, directeur d'une des plus importantes fédérations d'e-sport, le SWC, Philippe Guigné, créateur d'un jeu vidéo qui propose un tour du monde à la voile, évidemment virtuel, et Dina Morisset, plus connue sous le pseudo de Dina, une joueuse française, pas encore, on en parlera, tout à fait professionnelle. Mais cet e-sport s'est déjà largement professionnalisé en Corée du Sud, où nous allons tout de suite joindre notre correspondant. La Corée du Sud, pays roi de cette discipline, qui a été le premier à vraiment la développer. Certains matchs de jeux vidéo peuvent remplir des stades de 40 000 personnes, vous imaginez. Et les cyberathlètes coréens sont les meilleurs du monde, de vraies terreurs sur les tournois internationaux. Et une domination qui n'est pas sans sacrifice, vous allez l'entendre. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Séoul et vous avez rencontré plusieurs de ces e-sportifs professionnels. Alors, qui sont-ils? Qui sont ces cyberathlètes coréens?
Alors, ce sont avant tout des passionnés de jeux vidéo qui commencent très jeunes. Ils gagnent des compétitions locales, ils se font remarquer. Et puis, à la sortie du lycée, eh bien, ils se sont recrutés par une équipe professionnelle. Il y a en Corée une douzaine de ces écuries qui sont sponsorisées par les plus grandes entreprises du pays. Et les meilleurs cyberathlètes sont de véritables stars. Ils ont des fans qui les attendent à la sortie des matchs pour leur offrir des cadeaux et discuter avec eux, un peu comme pour un concert de K-pop, avec leur salaire, les sponsors, les récompenses des tournois. Les champions du clavier peuvent gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ils ont même des fans à l'étranger et j'ai été très surpris en visitant une salle de tournoi à Séoul d'y rencontrer des étrangers passionnés de e-sport qui font le voyage jusqu'en Corée pour voir s'affronter les meilleurs joueurs du monde. Et si les Coréens sont les meilleurs de la planète, c'est parce qu'ils s'imposent un entraînement et un mode de vie vraiment très dur.
Justement, Frédéric, on a du mal à s'imaginer à quoi ressemble la vie quotidienne d'un joueur, d'un cyberathlète.
Elle est très spartiate. Les e-sportifs coréens vivent et s'entraînent ensemble 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, sous la férule de plusieurs coachs. Ils commencent vers midi, s'arrêtent en général vers 2 heures du matin, avec des pauses pour manger et se reposer. Ces centres d'entraînement ressemblent à des bureaux d'entreprise. On y trouve des rangées d'ordinateurs, bien sûr, des sièges très confortables, et puis des tableaux blancs pour les sessions de stratégie et des appareils de musculation. Les joueurs dorment dans le même dortoir situé juste à côté de la salle d'entraînement. C'est une cuisinière qui leur prépare leur repas. Park Yong-Yu, 22 ans, est joueur professionnel de StarCraft 2.
Le talent est important, mais le travail est très important.
Pour réussir, il faut avoir des qualités innées, mais il faut surtout travailler dur, vraiment. Toute la journée, il faut jouer et ne rien faire d'autre. Jouer, manger, dormir. C'est comme ça qu'on gagne. Il faut une volonté d'acier. Je réalise mon rêve, mais c'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Si un jour j'ai des enfants et qu'ils me disent qu'ils veulent devenir joueurs professionnels, je pense que je leur dirai non.
Une autre question se pose, Frédéric, quelle reconversion est possible pour ces professionnels des jeux vidéo?
Eh ben, c'est un vrai problème, parce que les carrières sont en général très courtes. quelques années tout au plus, et les possibilités de reconversion comme entraîneur ou comme commentateur pour la télé sont très réduites. Au contraire du foot, par exemple, un sport où les règles sont immuables, les jeux vidéo évoluent vite, un nouveau jeu vient rapidement remplacer un autre, et les compétences acquises lors de ces années passées à jouer ne sont pas faciles à appliquer ailleurs. Park Jong-yu, le joueur de StarCraft, m'a confié en fin d'interview qu'il envisageait plus tard de se faire menuisier.
Je suis très satisfait, mais... 노력을 많이 하는데 빛을 못 보고 이렇게 은퇴하는 사람들을 많이 봐서
Je suis heureux de faire ce que je fais. C'est juste difficile. Je travaille dur, je peux pas voir la lumière du jour. Quand je vois les joueurs professionnels qui sont en fin de carrière, je vois aussi que c'est compliqué pour eux. Sur 100 joueurs, il n'y en a que 2 qui réussissent leur reconversion. C'est pour ça que je dis aux gens qui veulent passer pro qu'ils doivent réfléchir à deux fois.
Alors, il faut noter que comme la grande majorité de ces e-sportifs sont assez mal payés, cette précarité facilite la corruption. Le monde sud-coréen du sport électronique a été secoué à plusieurs reprises par des scandales de triche liés à des paris en ligne.
Merci Frédéric Ojardias, notre correspondant à Séoul. Sacha Brodowski, je vous voyais réagir. Comment vous voyez cette situation-là en Corée du Sud ?
On dit souvent que les joueurs coréens sont les meilleurs joueurs du monde, et c'est vrai, notamment sur des jeux comme StarCraft, comme League of Legends. On voit avec un nouveau jeu qui vient de sortir il y a quelques mois seulement, qui s'appelle Overwatch, que les Coréens risquent aussi d'étendre leur domination sur ce jeu-là. Mais c'est surtout leur façon de travailler et leur éthique de travail. C'est-à-dire que c'est vraiment tout pour la gagne, et c'est un peu la différence avec la mentalité, on va dire, européenne, américaine.
C'est d'ailleurs dans le cas dans d'autres domaines, hein, pas seulement dans celui des
jeux
vidéo.
Oui, j'ai un exemple, c'est dans une équipe qui s'appelle MVP. Et en fait, les joueurs coréens, donc sur ce jeu StarCraft, ils étaient une dizaine dans cette équipe, et tous les soirs, ils organisaient un tournoi sur StarCraft 2, donc sur leur jeu. Et en fait, celui qui terminait dernier, qui perdait le tournoi, devait faire la vaisselle de toute l'équipe à la main. Et c'était comme ça tous les jours. Il n'y avait pas de machine, en fait. Donc, personne ne voulait perdre et faire la... Et c'est ça, les Coréens. Et c'est pour ça que ce sont aussi les meilleurs joueurs du monde.
Ils créent leur propre source de motivation.
Bah oui.
Dina Morisset, vous êtes joueuse, pas encore tout à fait professionnelle. Alors, quel type de revenus vous arrivez à tirer de votre pratique de Just Dance ?
En fait, Just Dance, c'est un des rares jeux pour l'instant où il n'y a pas de cash prize, c'est-à-dire d'argent à gagner pour les vainqueurs, les meilleurs du monde, parce que c'est une volonté de l'éditeur pour l'instant d'être comme ça.
Donc on gagne juste la reconnaissance,
la gloire,
public, gloire,
c'est ça. Les fans, la gloire, le prestige de ce dont tout le monde rêve, n'est-ce pas ? Et du coup, mes sources de revenus pour l'instant, c'est plutôt lié à ce qu'on disait, des sponsors, des marques, des contrats de ce type, et aussi quand on se déplace dans des événements et où on est bien sûr rémunéré pour faire le show.
Et vous travaillez évidemment à côté, vous travaillez à un institut d'études statistiques. Est-ce que vous arrivez à trouver le temps malgré tout de vous entraîner pour Just Dance? C'est combien de temps?
Je me transforme un peu en coréenne puisque je fais boulot, entraînement et dodo dans les cas de vraiment... En ce moment, par exemple, j'essaye de me qualifier pour la prochaine compétition mondiale. Et du coup, il faut s'entraîner
en février.
Qui se tiendra en février, le SWC de février dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il faut s'entraîner très dur, on n'a pas le choix parce que le niveau est très très élevé et du coup, le peu de temps libre que j'ai à l'heure actuelle, je le consacre à mon entraînement.
7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous avons tout de suite un auditeur en ligne, Amadou. Bonjour Amadou.
Bonjour. Bonjour Charlie.
Vous êtes à Bambé, au Sénégal. Que vous inspire le sujet du jour, Amadou ?
Eh bien, moi, je suis en 2007. Alors là, on avait à l'université de Bambé, donc c'était le démarrage de la première promotion. Là, on organisait des concours de jeux vidéo, notamment les jeux de football, comme PES, Pro Evolution Soccer ou bien FIFA. Mais là, j'avais constaté qu'il y avait des joueurs, quand même, des étudiants qui jouaient, mais on se rendait compte que ces étudiants, ils gagnaient à chaque fois les jeux. Mais lorsqu'on retournait en classe pour faire les modules informatiques de programmation, comme par exemple Java, comme par exemple C++, etc., à chaque fois, ils étaient aussi les premiers au niveau de la programmation. Non seulement ils étaient premiers, mais aussi ils le faisaient d'une manière très bien et très rapide.
Oui, en fait, ça les aidait pour la programmation informatique.
Voilà, donc c'est-à-dire que les jeux développaient des capacités cognitives extrêmement rapides pour leur programmation et ils le faisaient tellement bien que on avait fait le link et le lien pour savoir que c'était c'était les jeux qui leur permettaient alors d'être extrêmement performants au niveau de leur programmation, voilà, exactement en informatique.
Et vous aussi, vous diriez que ça vous a aidé dans vos compétences et dans la programmation en informatique de jouer aux jeux vidéo ?
Bon, ben moi, à l'époque, je jouais aux jeux vidéo, mais à chaque fois, on me battait. Mais quand même, ça m'aidait. Parce que, par exemple, il y avait un langage comme... le langage de programmation, langage C, j'avais des difficultés quand même pour comprendre cela, surtout les bibliothèques et les classes. Mais quand même, lorsque j'ai commencé à m'adonner sur ces jeux-là vidéo, c'est de là que j'ai compris que vraiment c'est bon de jouer à ces jeux vidéo. Quand on est adulte, parce que moi qui parle avec vous, je suis enseignant informatique et j'enseigne à des élèves. Et mes élèves, je leur déconcentre pour ne pas jouer à ces jeux vidéo-là.
Oui, pour pas, quand même qu'ils travaillent aussi un peu leur cours.
Voilà, pour qu'ils puissent travailler leur cours. Non seulement travailler leur cours, mais que ces jeux vidéo sont vraiment très précoces à leur âge. Parce qu'entre 5 ans jusqu'à 12 ans, je leur fais jouer à d'autres jeux vidéo. Par exemple, Tokemat, par exemple, Tokimo, qui sont des jeux vidéo interactifs, mais surtout éducatifs, par rapport à ces jeux vidéo que nous jouons à l'époque, à l'université, et qui développaient nos capacités quand même mentales.
En tout cas, Amadou, vous défendez les vertus des jeux vidéo. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre témoignage. Philippe Guigné, vous voulez réagir ?
Je trouve qu'effectivement, il y a une vraie vertu pédagogique ou de persévérance, particulièrement, je trouve, avec le jeu vidéo, qui est très intéressante. Particulièrement sur les jeux à niveau, sur les jeux de plateforme. Voilà, enfin, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, je me rappelle personnellement, il y a quelques années, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Super Monkey Ball. C'est un jeu très assez simple. Il faut faire avancer une boule et pas tomber, quoi. Et en fait, on se rend parfaitement compte qu'il est... Un niveau qui serait par exemple le niveau 30 est totalement inaccessible quand on est au niveau 1 ou au niveau 2 ou au niveau 3. Et on va progresser jusqu'à être capable d'atteindre ce niveau 30 et de le faire X fois et jusqu'à réussir à le passer. Il y a vraiment un enjeu de persévérance. Moi, je sais que j'ai dit à mon fils de jouer à ça et pour lui démontrer qu'en fait en bossant à l'école... C'est exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'il sera bon en maths si en fait il bosse un peu ses maths et s'il persévère. Et c'est pareil, passer un niveau à un jeu vidéo, on répète, on fait les mêmes erreurs, et puis on progresse, et puis on apprend, et on finit par le passer. Ce qui était totalement inaccessible, à la limite, un quart d'heure avant. Mmh. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant avec le jeu pour ça.
Les jeux vidéo enseigneraient la persévérance, la rigueur.
Oui, bien sûr.
Sacha Brodowski.
Ce qui est sûr, pour reprendre un petit peu ce sujet qui a été évoqué sur le fait que ils sont bons dans le jeu vidéo et ils sont bons aussi après quand ils appliquent ça, donc en l'occurrence dans les cours de programmation, c'est que les meilleurs joueurs du monde, peu importe le jeu, ont un don. Voilà, ils ont quelque chose d'extraordinaire par rapport au commun des mortels, c'est-à-dire que leur réflexe, leur façon de voir le jeu, leur façon d'anticiper, leur calme, leur sang-froid, parce que parfois il y a des conditions aussi où ils ont la pression. Hein, les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui sur des jeux comme League of Legends ou comme Counter-Strike jouent pour des millions d'euros ou des millions de dollars. Donc,
qu'on a aussi des joueurs qui, ont de forts salaires, des salaires importants.
Voilà, mais ce don-là, ils l'ont sur tous les jeux. C'est-à-dire que moi, je prends deux exemples très simples de joueurs que j'ai chez moi. Alors, c'est deux retraités maintenant. L'un s'appelle Bruce Granek, il est 4 fois champion du monde de jeux de foot. L'autre s'appelle Borakim, donc Yellowstar, qui est aujourd'hui le boss du Paris Saint-Germain eSport.
Il a 24 ans, c'est un jeune retraité.
Exactement, des jeunes retraités, mais ils ont des grands frères. Et en fait, c'est les grands frères qui les ont initiés, pour les deux, hein, alors qu'ils ne se connaissent pas, mais sur les jeux vidéo. Et peu importe le jeu auquel ils jouaient avec le grand frère, qui avait 4-5 ans de plus, ils jouaient au bout de 2 heures, 3 heures, ils étaient bien meilleurs que leur grand frère. Donc, peu importe le jeu, en fait, à chaque fois, ils changeaient de jeu et le grand frère se faisait battre. Donc, ils ont un don, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce don, il est effectivement, pour certains jeux, c'est pas encore le cas de Just Dance, mais pour des jeux comme League of Legends ou Counter-Strike, très, très bien rémunérés pour les meilleurs joueurs du monde.
Et on a des joueurs qui gagnent des millions d'euros par an.
Alors en millions d'euros, il y a peut-être aujourd'hui un ou deux joueurs dans le monde sur des jeux comme League of Legends. Aujourd'hui, par exemple, le salaire, on va dire, moyen sur un jeu comme League of Legends, donc le jeu vidéo le plus joué au monde en Europe dans le championnat pro, l'équivalent de la Ligue 1, c'est entre 80 000 et 100 000 euros par an.
Mmh. Ouais. un salaire assez conséquent. Alors, vous parlez justement du PSG, donc club éminemment connu de football. Le PSG qui a créé sa propre section d'e-sport. C'est quand même assez intéressant. Évidemment, ça a été très médiatisé avec des millions d'euros investis, une équipe de 5 joueurs pour ce jeu League of Legends. Pourquoi est-ce que un club comme le PSG va s'intéresser aux jeux vidéo, à l'e-sport, va y voir un potentiel pour du business?
La première raison, c'est de toucher un public auquel il n'a pas accès, parce que je crois qu'on l'a rapidement évoqué avant avec les marques, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ne regardent pas la télé. Voilà, donc ils ont pas avoir la télé chez eux. Moi, j'ai un cousin de 13 ans qui est à fond là-dedans. Il regarde pas la télé. Tous les jeudis, vendredis, il regarde les compétitions, que ce soit sur Counter-Strike, Hearthstone, tous ces jeux. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième, c'est toucher un nouveau marché aussi pour un club comme le Paris Saint-Germain, puisque eux essaye d'être un club international et de viser notamment l'Asie. Et on le sait, que ce soit en Chine, en Corée, on l'a vu, le jeu vidéo aujourd'hui prend des proportions qui sont hallucinantes. J'entendais votre correspondant qui disait qu'à la fin, les fans attendaient avec des cadeaux. Et ça, je l'ai vu. Je vois des gens pleurer en voyant. Alors, voilà, donc c'est autre chose. C'est, en France, on n'en est pas encore là. C'est vrai qu'ils sont super contents de voir leur star, mais on n'en est quand même pas au point de la Corée. Et c'est vrai que je pense que le Paris Saint-Germain et d'autres clubs, hein, il y a des clubs allemands, des clubs anglais, des clubs espagnols qui vont dans l'e-sport en ce moment. Je pense que c'est le bon pari.
Il s'agit en fait de toucher ce qu'on appelle la génération Z ou les millennials, ces jeunes qui sont nés au tournant des années 2000. Et aussi un chiffre que j'aimerais donner, c'est que 80% des spectateurs de l'e-sport ont entre 15 et 34 ans, donc ça fait quand même un public assez jeune. Julien Brochet, vous, les sponsors pour vos événements d'e-sport, quels sont-ils? Quel type de marques sont en jeu?
Historiquement, c'était des marques qui étaient liées directement à l'informatique ou aux jeux vidéo, des marques qui développaient les meilleurs écrans, les meilleurs casques, les meilleures souris, les meilleurs claviers. Et de plus en plus, maintenant, on travaille avec des marques, ce qu'on appelle hors secteur, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément liées, mais qui essayent justement de toucher cette génération. Donc on travaille avec des assurances, des marques de vêtements, même de la cosmétique qui commence à s'y mettre. Donc évidemment, les providers Internet également, qui se sont bien positionnés sur le marché. Mais il y a vraiment eu une évolution où, en effet, on est passé un petit peu à un phénomène de niche, avec des marques qui voulaient toucher vraiment des petites communautés, où maintenant, ça touche du grand public et ça touche les nouvelles générations.
C'est aussi ce public jeune que cherchent à viser les chaînes télé, beIN Sport, la chaîne Qatari, l'équipe 21, partent aussi à l'assaut de l'e-sport et vont proposer des tournois pour éventuellement faire que des jeunes s'abonnent à leur chaîne.
Oui, il y a de plus en plus de rediffusions à la télé. Enfin, il faut savoir que, évidemment, toutes les grandes compétitions aujourd'hui sont diffusées gratuitement sur Internet. Mais de plus en plus, les télévisions commencent à se positionner. Et notamment, on avait diffusé la grande finale de Clash Royale en direct sur SFR Sport 3. Donc, on a des chaînes de sport qui se mettent à diffuser du contenu en direct sur un jeu mobile qui n'a absolument rien à voir avec le sport traditionnel, mais qui a un intérêt parce qu'il y a les meilleurs joueurs du monde qui sont là, il y a des fans qui suivent et ça crée de l'engouement autour.
Ce qui montre qu'il y a un vrai public. Philippe Guigné, vous, quel public vous visez avec votre jeu? Est-ce un public jeune ou...
Non. Alors, sur Virtual, on a des joueurs de 6 à plus de 80 ans, j'en ai vu. Donc, c'est très atypique comme jeu, puisque c'est un jeu qui est souvent joué par des gens qui ne jouent à aucun autre jeu. C'est vraiment... on fait le Vendée Globe, on fait la Route du Rhum.
Attendiez un tel succès? 430 000 joueurs, c'est quand même assez important.
Oui, parce qu'on a déjà fait ça et on avait eu pas loin de 500 000 déjà la dernière édition. Donc là, on aura un peu plus. Le ratio qui est très intéressant. Enfin, on se demandait là pourquoi ça marche, le e-sport, pourquoi il y a un truc qui se passe. Moi, je pense que ça se résume assez simplement aussi. Hein. Là, en ce moment, sur le Vendée Globe, il y a 20 concurrents qui sont partis faire le Vendée Globe. Okay, 20 concurrents sur des vrais bateaux, des vrais hommes.
Qui font le tour du monde à la voile.
Qui sont en train de faire le tour du monde à la voile. Et il y en a 400 000 dans le jeu. C'est-à-dire 20 000 fois plus. D'accord ? En fait, le sujet, il est là. C'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement peut-être 400 000 personnes qui aimeraient bien faire le Vendée Globe, le vrai. Sauf que c'est dangereux, c'est cher, c'est extrêmement technique. Enfin, pour tout un tas de raisons, il n'y en a que 20 qui vont réussir à y aller. tous les autres, avec un jeu en plus free-to-play comme le nôtre, on peut le faire gratuitement. Ou alors, même avec les options, pour 25 euros, si vous voulez, on fait 3 mois de compétition, enfin 3 mois de course, ce qui est dérisoire. Donc finalement, ça devient très accessible. Et c'est ça, en fait, l'enjeu du e-sport, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'événements qui sont accessibles à tous. Et en plus, ça devient mondial. C'est-à-dire que demain, si on veut rentrer dans des compétitions sur un League of Legends ou un autre, on va pouvoir très vite accéder à une compétition à un niveau mondial. Ce qui n'est pas le cas du tournoi de pétanque en bas de chez soi. C'est pas possible, ça. La finale de la Coupe du Monde de pétanque, je prends un truc bien ancien. Non, mais pour bien montrer le décalage, il faudra aller physiquement sur le lieu en question où ça se passera. On n'a pas accès à la compète mondiale.
Et avec votre jeu, vous offrez la possibilité à tous de, virtuellement en tout cas, voilà, faire ce tour du monde à la voile. Mmh. 7 milliards de voisins, on attend vos appels au 33 1 84 22 22 71. Mais tout de suite, Stoner's Anthem de Birdie Nam Nam. Pass me the dutch, fuck it, I'ma roll when it's smoke here right now. Now I can't get enough, I'm stepping foot on the block when I'm talking like vaporizes, flavors I love. I had to take the night off to escape on hiding. I've been shot, then copy you talking to me. Ay, cops said they been stalking, but all I hear is the weed. Ay, swerving on me, nervous when they searching for that door. Lurking out on purpose, we disturbing with that smoke. Always stay with me. Fuck that non-smoking sound. Sip on that all the wine. Always got that grain. Always got that grain. Always got that grain. Always got that grain. Got it. Keep it in my tongue, baby. Trying to step my love, baby. Buffets in the fingers, they can't get higher. Swap a sinister of other than fake. Now you're tripping, one all of the cake. I'm not chilling, got money to make. Got the feeling you're running the mood. Running the maze, just like a bitch. Just like a bitch. Is there something to say? You know how what I did slip. Really in a minute, next silly, come on, sip it, got a trippin'. I can feel it, so I'm feeling up the ground. They kill it, I believe it, with no limit. I can get it, take a hit, it's time to think I need to finish, but I found some. Dans des sociétés où on méprise, on a longtemps méprisé en tout cas les jeux vidéo, qu'on a vu comme un loisir tout au plus, qu'on a vu aussi en tant que parent comme une perte de temps pour ses enfants, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une revanche des geeks peut-être, méprisés hier, aujourd'hui dignes d'intérêt, convoités par les marques, Julien Brochet?
Ouais, alors le problème c'est qu'aujourd'hui geek ça veut plus dire grand chose parce que finalement tout le monde est geek parce que tout le monde a son téléphone portable, tout le monde est connecté, donc il n'y a pas vraiment de revanche des geeks, mais maintenant aujourd'hui ouais, être geek c'est être tendance en fait, c'est être dans le coup. Mais en
tout
effet,
cas, les jeux vidéo étaient mal vus longtemps.
Oui, enfin ils étaient mal vus en effet, surtout par les médias, c'était présenté comme des gens qui restaient enfermés, qui n'étaient pas sociables, alors qu'en fait c'était déjà faux, en fait, à l'époque. Le jeu vidéo a toujours été un moyen de se rencontrer, justement, et le e-sport encore plus, parce que justement, on affronte des gens ou on joue avec eux en équipe. Et tout à l'heure, on parlait des qualités professionnelles qui pouvaient être développées grâce au e-sport. Et il y a aussi celle du management. Quand on gère une équipe, on apprend à travailler avec des gens, même si on joue avec eux, on apprend à travailler avec eux. Et c'est des qualités qui peuvent servir plus tard dans la vie professionnelle. Donc oui, ces gens-là sont beaucoup plus sociables qu'on peut le penser. En fait, ce sont des gens normaux, ce sont nous.
Et donc ces gens ont montré aussi que leur passion pouvait avoir une valeur, pouvait se monétiser et donc avoir leur place dans notre monde actuel. Pourquoi les jeux vidéo font autant rêver, selon vous, Sacha Brodowski? Il y a une part de rêve là-dedans, d'imaginaire, on en parlait. On a des personnages fantastiques, il y a quelque chose de l'ordre du rêve.
C'est quand même un job qui est pas courant de pouvoir dire je vis du jeu vidéo. C'est le rêve aujourd'hui de beaucoup de gamins. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, on parlait tout à l'heure du joueur coréen qui disait il faut y réfléchir à deux fois. C'est vrai qu'en Corée, en plus, ils ont autre chose, c'est le service militaire qui est obligatoire. Donc, à un moment donné, ils doivent arrêter leur carrière pour aller faire le service militaire. Mais c'est vrai que non, je dirais qu'aujourd'hui, des gens en France, des joueurs pros en France qui vivent je ne sais pas où est la notion de décemment, mais qui gagnent, on va dire, au-dessus de 1 500 euros par mois. En France, il doit en avoir entre 30, 40, allez, 50 au maximum. C'est vraiment le maximum. Donc, ça fait quand même très, très peu. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir vivre correctement de ça, il faut être dans le 0,00001%.
Il faut être dans les meilleurs.
Il faut être dans l'élite. Et être dans l'élite, bah, c'est, ça fait rêver.
Quel défi reste justement aujourd'hui pour l'e-sport, pour ces compétitions de jeux vidéo, Dina Morisset ? On compte encore, on le voit, en très peu de joueuses femmes qui sont minoritaires.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que ça, c'est un des défis aussi qu'il va falloir relever ?
Bah, moi, c'est quelque chose que je prends très personnellement à cœur, de représenter aussi les femmes dans le jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi il y en a si peu, j'arrive pas à me l'expliquer. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que disait Sacha, c'est vrai que souvent, notre jeu vidéo, c'est notre passion, on adore faire ça. Donc, qui n'aimerait pas vivre de sa passion ? Ça, c'est évident. Après, ça demande énormément de sacrifices, mais ça fait rêver parce que quand on voit les champions, en fait, ils incarnent un espèce de rêve et un idéalisme. Ils en vivent, ils font plein de voyages, ils ont des fans qui ne... Beaucoup de gens rêvent de ça. Donc, on a peu d'élus, mais le fait d'avoir ce rêve permet à beaucoup de gens de vouloir tenter l'expérience. Et il faut continuer de populariser ça, de mettre ça en avant. Ça apporte beaucoup de positif. Et c'est le futur, c'est l'e-sport.
Et votre rêve à tous, c'est quoi ? Que l'e-sport soit reconnu comme une vraie discipline à part entière ? Julien Brochet ?
Non, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je trouve que ça l'est déjà. À partir du moment où justement, il y a des millions de personnes qui le suivent dans le monde et qui sont passionnées, c'est déjà reconnu. La reconnaissance de qui ? On n'a pas besoin de ces reconnaissances-là, en fait.
Oui, ce monde-là existe déjà par lui-même.
Nous, ça fait longtemps qu'on est... C'est compliqué, si ça pourrait... Ouais, c'est un axe quand même qui est un peu recherché.
Là-dessus, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se plaindre qu'en France, on est en retard, mais sur le e-sport, ce n'est pas vraiment le cas. On a des super champions, on a des très grandes compétitions, et on a le gouvernement qui s'est déjà positionné dessus pour le reconnaître, justement, pour reconnaître un statut de joueur professionnel de jeux vidéo.
C'est un projet de loi.
Donc, c'est déjà fait. Après, ce n'est pas forcément un combat d'être reconnu comme un sport. Donc, voilà, on n'est pas en quête de reconnaissance, on est juste en quête de continuer à développer notre passion.
Ça existe déjà. Merci à vous, Julien Brochet, Philippe Guigné, Sacha Brodowski, Dina Morisset, joueuse, championne du jeu Just Dance. Merci aussi à toute l'équipe, 7 milliards de voisins. À bientôt.